peut-être, voilà, une petite présentation.
Oui, je voudrais vous demander, je suis une doctorante de Michel Foucault. Je travaille sur les hommes et l'interprétation phénoménologique.
Voilà, alors on va commencer tout de suite, puisqu'on va faire de grands préliminaires. Hein. Oui. Franck, je crois que tu as la parole.
Merci, simplement que ça serait mieux encore si j'avais un écran.
Tu l'avais tout à l'heure. Oui, tu as fait la manip, il faut que ce soit dans le projecteur.
Ah, voilà. C'est vrai, bon. Parce qu'en plus, il y a du suspense, je ne suis pas sûr que la batterie de l'ordinateur.
Tu as une clé USB quand même. Tu l'as mis sur clé USB.
J'ai une clé USB. Voilà, donc je voudrais parler de dynamique quantique à réduction spatiale spontanée. C'est moi, Michel.
Ah, bah voilà, tu vois, on a attendu un peu pour te laisser le temps d'arriver, mais Laura nous a expliqué que tu venais de l'ENS, tu avais un cours qui réalisait.
Bon, merci.
Vous le savez tous, il existe un très grand nombre d'interprétations de la dynamique quantique. Mais au fond, je crois qu'on peut dire à l'époque qu'aucune n'émerge tellement au-dessus des autres qu'elle n'a validé toutes les autres. Donc on est vraiment en présence d'un nombre de possibilités qui quelquefois se ressemblent, quelquefois simplement les nouvelles interprétations sont très proches des anciennes, mais on change des mots, on remplace par exemple typiquement observateur par agent, et puis on dit que c'était une nouvelle interprétation, et ainsi de suite. La classe d'interprétation dont je voulais parler est chère à mon cœur parce qu'elle est, elle est un petit peu à part. Et en plus, elle a des positions physiques différentes, elle prend des risques. Donc, les grandes références sur le sujet, je les ai listées sur ce transparent. Un article célèbre, c'est l'article qu'on appelle JRW pour Ghirardi. Miné, c'est votre Ghirardi, un physicien italien qui est mort il y a 2 mois, tout récemment. Ça, c'est la version discontinue des dynamiques à réduction spontanée. Il y a une version continue avec des fonctions aléatoires, j'en parlerai aussi, qui s'appelle CSL, Continuous Spontaneous Localization, qui a été initiée par Philippe Meur. Et enfin, il y a des liens qui ont été effectués par les invités. Dioshi est un grand chantre de cette possibilité. Mais Penrose a également publié des écrits sur ce sujet. Alors, mon plan, c'est le suivant. Je voulais d'abord commencer, comme toujours, pour l'introduction, vous expliquer la motivation de ces théories à réduction spontanée et glisser un petit rappel sur DDD, l'interprétation de Breuil et de Bohm. Parce que j'en aurai besoin, ça me servira de référence. Donc je dirais, il se fait juste à la transparence, mais je rappellerai très rapidement ce que j'avais raconté il y a 3-4 ans, je ne me souviens plus sur le sujet. Ensuite, j'entrerai dans le vif du sujet qui sont les dynamiques stochastiques, GRW comme je dis, CSL, je dirai quelques mots de Dioshi et Penrose. En 3, je parlerai de ce qui, à mon avis, était un point important de ces théories, c'est les essais observables prises, et qui ne produisent pas de théorie, et discuter quelles sont les interprétations possibles de ces théories, car il y en a plusieurs. Et enfin, je glisserai, ça c'est un peu le péché mignon, un petit modèle déterministe mixte que j'ai inventé récemment, et qui mélange au début toutes ces idées. Rassurez-vous, ce ne sera que 2 ou 3 stars. Bon, alors j'ai commencé par les choses que tout le monde sait, bien sûr, qui est que la mécanique quantique, plus que l'ensemble de ces équations, explique tout, toutes les données physiques, les équations parfois extraordinaires, mais on peut dire de façon un peu humoristique, sauf l'observation la plus courante, qui est l'unicité macroscopique, l'unicité du volume mesuré, qui n'est pas explicitement contenue dans ces équations. Donc il faut ajouter une interprétation, c'est là que plusieurs informations sont possibles. Donc la question qui se pose, c'est où placer la ligne de partage. Où est-ce qu'on arrête de se baser sur les équations et où est-ce qu'on commence à dire à partir de maintenant, hop, c'est l'interprétation qui prend le relais pour aller plus loin dans ma théorie. Ou du dit de façon un peu grossière, où s'arrête l'image et où commence la philosophie. c'est une espèce de... On parle souvent de shifty speed en termes de mécanique quantique pour référer à une frontière qui se trouve près entre, c'est par exemple l'appareil de mesure et le système mesuré, entre le macroscopique et le microscopique. C'est le shifty speed de Bohr. Mais là, on a un autre speed au fond qui n'est pas de la même nature, qui est une espèce de frontière entre jusqu'où on donne l'ordre mathématique d'aller, et après ça, on prend le relais pour des considérations plus générales et interprétatives. Alors, vous le savez aussi bien que moi, il existe plusieurs écoles, plusieurs études. Une, l'interprétation de Copenhague, mais on peut dire que les histoires cohérentes, le réel voilé, l'interprétation de Badian et ses amis, ABN, CSM de Philippe Cangier, ton solipsisme Cofial, le cubisme dont on parlait tout à l'heure, etc. Ce sont des interprétations où on va jusqu'à un certain degré dans la mathématique, puis après ça, on prend le relais complet par l'interprétation. Everett, c'est un extrême. Everett, il prétend que Everett et de Graham, de Wood en plus encore, disent que les équations de la mécanique quantique suffisent, qu'il n'y ait pas besoin d'interprétation, et que tout est contenu dans ces équations. Je pense que vous avez tous vu un débat mémorable en physique scolaire il y a une vingtaine d'années à ce sujet. Et puis, un petit peu entre les deux, il y a de Broglie, qui modifie les maths, il y ajoute des éléments, et ou BBB, c'est Bell, Brown, Baum et de Broglie. C'est la théorie des champs baumienne que Bell a proposée, et les dynamiques de Schrödinger modifiées. Ce sont des théories où on fait un pas de plus avec les maths, si vous voulez. Alors donc je vais prendre ce point de vue, qui est celui qu'on accepte de faire un pas de plus et de modifier les équations de mécanique quantique, malgré le fait bien connu que telles qu'elles sont, elles marchent quand même extrêmement bien. Alors, donc, le point de vue, c'est celui que j'ai dit tout à l'heure, la physique doit rendre compte de toutes les observations expérimentales, et qu'on peut dire que de toutes ces observations, les plus évidentes, et peut-être celles de l'unicité macroscopique. C'est vraiment ce qui base la méthode scientifique. Si on pouvait, si chaque expérience donnait des superpositions de 15 résultats différents, nous, les laboratoires, on ne saurait pas trop comment procéder. Donc, on peut considérer que c'est une observation. Et donc, on part du principe que le devoir des physiciens propose une théorie dont les équations vont le plus loin possible et contiennent cette unicité. C'est la motivation du départ. Bon, le reste, c'est déjà dit. Et donc, les teneurs des théories GRWSSL se proposent d'aller plus loin dans cette direction. Alors, j'ai besoin pour la suite de dire quelques mots rapides de rappel sur de Broglie, DBB. Pardonnez-moi si je dis des choses que vous avez trouvées déjà, ou si je parle ce qu'il m'a raconté il y a 3 ans. Mais comme vous le savez, dans cette théorie, on considère que les descriptions mathématiques par un vecteur d'état ou une fonction d'onde n'est pas suffisante. Il faut ajouter une variable de plus, qui est une variable de position dans l'espace des configurations. Alors, sur en préférence, dites que c'est une variable dans l'espace de configuration, ou autant de variables que de particules dans l'espace habituel, c'est rien. Donc ce sont des théories à variables supplémentaires. Je suis plus réluctant à parler de variables cachées, parce que justement dans ces théories, les variables qu'on voit, ce sont ces variables-là, et que les variables cachées sont plutôt le vecteur d'état. Bon, donc je parle de théories à variables supplémentaires. Alors ces positions ne sont pas indépendantes, elles sont constamment guidées par la, ou les fonctions, s'il y en a plusieurs, associées au vecteur d'état de façon déterministe. Ou par la matrice densité, etc. Ça revient même, c'est les mêmes équations. Alors, où intervient l'aléatoire dans ces théories? Eh bien, c'est que la position initiale de la valeur initiale de cette position dans l'espace de configuration est aléatoire. Elle est inconnue. Et donc, c'est une théorie qui est, certains disent, c'est une théorie déterministe, à mon avis, c'est pas vrai. C'est une théorie indéterministe, mais un indéterminisme est transposé de la dynamique, vers les conditions initiales. Et une fois qu'on a les conditions initiales, on ne connaît pas, la théorie est effectivement parfaitement déterministe.
Ce qui est embêtant, c'est que tu emploies, comme beaucoup de gens, le mot déterminisme dans deux sens différents. Il y a un premier sens qui est déterministe, ça signifie, je me donne un instant donné, donc ça me fournit exactement la même chose à l'autre instant. Il y a un autre mot qui est quand même beaucoup plus précis, qui est probabiliste, parce que quand je prends une équation stochastique, quand je prends une équation, pas stochastique, mais une équation de mécanique statistique, à l'origine, c'est une loi de probabilité qui va évoluer, mais cette évolution est déterministe. Donc souvent, les mots emploient le mot déterministe, non déterministe, pour dire que c'est foncièrement probabiliste. Il faudrait te méfier.
Donc j'aurais dû dire probabiliste.
Oui, probabiliste. Oui.
D'accord. Ok, merci. Et un autre point essentiel qui est que cette théorie, qui est notre théorie, la théorie ainsi obtenue, fait exactement les mêmes conditions d'intérêt standard. Alors il y a un calcul du papier qui continue à sortir, à partir de l'ailleurs, qui vous explique que mécanique quantique standard est théorie de l'obéissance incompatible. Je ne les ai pas tous lus, j'en ai lu un bon paquet de livres. En gros, ce sont des gens qui modifient l'intérêt des bébés pour la vérité, pour montrer qu'elle est contradictoire, avec la théorie standard. Alors, cette théorie, j'en avais parlé, a des succès et des problèmes, à mon avis. Le succès qui est évident, c'est qu'on a une dynamique unifiée. On n'a plus besoin de parler de mesures, d'observateurs. Tout ça, les systèmes évoluent par eux-mêmes. Indépendamment du fait que qu'ils soient en face des mesures et que les êtres humains existent ou pas, ça n'est plus du tout anthropocentrique. Un autre avantage, à mon avis, c'est que c'est un point de vue plus riche, il y a plus d'éléments dans les mathématiques. Et l'exemple qu'on donne toujours, c'est si le théorème de Bell a été découvert, c'est bien parce que Bell était intéressé par le théorème de Bell. C'est ça qui l'a amené au théorème de Bell, dont l'intérêt dépasse de beaucoup la simple théorème de Bell.
Et où en est la variance relativiste? Qu'est-ce qu'on peut dire de la variance relativiste des théories? Est-ce que maintenant il y a une théorie des champs, par exemple une électronitude? Est-ce que tu pourrais faire de l'électronique quantique à la théorie de Bohm?
Oui, on peut. Alors, je ne suis pas spécialiste de la question, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus. Il y a des papiers qui s'appellent théorie des champs relativistes, les deux Bohm. Il y a des chefs durs, par exemple, à Munich qui fait ça. Il y a. Comment s'appelle-t-il, Wolfstruff à Liège. Le problème de ces théories, en fait, c'est que, en gros, il y en a trop. C'est trop facile de les construire. Et on ne sait pas trop bien comment les choisir. Je peux le dire en deux mots pourquoi. Quand il s'agit de particules qui ont des positions, pas des photons, mais des particules matérielles, il est assez tentant et naturel de donner aux positions un rôle spécial. Parce qu'après tout, quand on observe un pointeur sur un écran, c'est bien la position d'un objet qu'on observe. Donc on comprend que, par exemple, entre position et impulsion, la position est un meilleur candidat pour qu'on lui attribue une variable bohmienne. Il y a des gens qui sont amusés à faire des théories bohmiennes avec des impulsions. C'est quand même très naturel de prendre la position. Quand vous êtes en théorie des champs, je vais prendre l'électromagnétisme, parce que je ne suis pas en théorie des champs, mais l'électromagnétisme, pour lequel je suis habitué, et bien alors vous dites, qu'est-ce que je vais prendre? Alors la première idée qui vient, c'est qu'on aime bien le champ électrique, pour lequel je suis, donc on dit, je vais prendre une variable bohmienne qui est le champ électrique. Alors à ce moment-là, la valeur du champ électrique en tout point de l'espace devient un champ classique, et la fonction non devient une fonctionnelle de champ classique. Complexe. Et vous faites une belle théorie bohmienne, ça marche très bien, vous voulez le faire, il n'y a pas de difficulté particulière. Puis vous dites, ah, mais c'est embêtant quand même, parce que moi je suis habitué aux transitions électriques dans les atomes, il y a aussi des transitions magnétiques. Alors je vais faire une théorie bohmienne où c'est le champ magnétique qui est la variable bohmienne de base. Là ça marche très bien aussi, mais c'est une autre théorie. C'est une théorie pas équivalente à la première.
C'est pas équivalent?
Non.
Ça, parce que ça pourrait être en fait deux théories qui ont un formalisme différent, mais qui en fait sont équivalentes, simplement elles sont duales l'une de l'autre, par exemple. Ça pourrait être ça.
En termes de prédiction, elles sont équivalentes, parce que toutes les deux sont équivalentes à la théorie. Mais en termes de description physique, non, pas du tout. Tu ne veux pas.
L'image qu'elle donne est différente.
L'image qu'elle donne est différente.
C'est même pire parce que tu as la variance de jauge. Donc normalement, tu as un continuum de théories qui séduisent les unes des autres par la variance de jauge.
Voilà, exactement. Alors, une troisième possibilité qui n'est pas l'objection que vient de faire Roger, c'est de dire on va prendre le potentiel vecteur. Après tout, c'est plus économique, le potentiel vecteur, il contient à la fois E et B. C'est ce qu'a fait Ben dans son premier papier, il avait pris A comme E. Mais bon, ça pose des problèmes de rien de jauge, comme tu dis. Donc
je crois... De toute façon, si tu veux quantifier, c'est pas le champ que tu quantifies, c'est le potentiel.
Oui, normalement, c'est ce que tu fais, mais rien t'empêcherait de... C'est plus compliqué de quantifier le potentiel, mais rien t'empêcherait en principe de le faire.
Je ne sais pas écrire en algorithme, absolument. Comment se fait ? Je ne sais pas, l'algorithme, c'est que tu fonctionnes le potentiel.
Franchement, moi, je sais écrire la variable électromagnétique en fonction de EV, quand même, toi aussi.
C'est énergique, hein. Quantifier le champ du potentiel, je suis absolument d'accord, c'est énergique. Oui. Mais.
Bon, peut-être qu'on va s'arrêter sur le
problème.
C'est possible, il y a des publics, c'est pas extraordinairement connu. Ouais, on peut dire quelque chose comme ça.
C'est possible, c'est tout.
C'est possible, oui, il n'y a pas de possibilité. Il y a des gens qui ont développé, je parlais des structures, le formalisme des opérateurs de création, d'énumération en EV, ça peut se faire. Hein, c'est très joli, tu as des positions qui se promènent, qui disparaissent, qui apparaissent ailleurs. Ça ressemble un peu à des diagrammes de Feynman, en fait. Bon, il y a des faiblesses aussi, cette théorie. Une faiblesse un peu esthétique, mais que j'ai dit que les positions étaient guidées par la fonction d'onde. La fonction d'onde, elle, reste un pas vide. C'est vraiment la fonction d'onde habituelle. Elle ignore totalement les positions. Et en physique, on n'est pas trop habitué à ça. On aime bien que les objets réalisent les uns sur les autres. Et puis alors, on a une deuxième faiblesse conceptuelle qui est... Si j'ai pas peur. Voilà, ça m'inquiète. Qui est que... Qui est que la fonction d'onde est la même comme mécanique quantique, donc c'est la fonction d'onde de Dredd, si vous voulez, qui compte. Si on observe un résultat donné, la partie de la fonction d'onde qui correspond au résultat qui n'est pas observé continue à se propager jusqu'à l'infini. C'est ce que Bohm appelle des ondes vides. Et donc, les gens qui attaquent la théorie des bébés, en particulier les Dreddiens, ont dit pour finir, vous avez, ça n'est que la théorie des Dredd, par des gens qui s'ignorent les Dreddiens.
Il y a personne qui disait que Dredd c'était un Bohm avec ce lexisme qui était présent.
Exact. Donc, et en plus, l'interprétation n'est pas évidente. Il y a deux différents types de Bohmiens. Il y a des gens qui vous disent que la fonction d'onde, c'est un champ réel, physique, exactement comme le champ métrique. Il y en a d'autres qui vous disent pas du tout, non, c'est un intermédiaire mathématique qui permet de calculer l'évolution des positions qui, elles, sont réelles. Donc, c'est pas. En plus, c'est assez curieux parce que ce sur quoi le physicien peut agir en chantant ses appareils, en tournant ses boutons, ce sont les fonctions d'onde. Avec un Stern égal A, je tourne mon Stern égal A, je prépare un spin à l'état plus. Et ce qu'on peut voir, on ne voit jamais les fonctions d'onde, ce sont les positions. Donc, on a une espèce, un autre split, là, entre dans le formalisme mathématique, ce qu'on peut manœuvrer et ce qu'on peut voir. Ce qui est assez curieux. Ça avait été mon point de conclusion dans l'exposé précédent.
Donc ça se trouve dans toutes les interprétations. Tu as d'un côté le formaliste et d'autre part ce que tu peux voir, et tu as toujours une coupure qui est plus ou moins loin, c'est pareil.
Non, pas tout à fait, parce que les positions bohmiennes sont avec la partie intégrante du formalisme bohmien.
Oui, mais tu ne peux pas les voir.
Si. Pour un bohmien, si, tu peux les voir. Ce que tu vois quand tu fais une mesure, on parle toujours du pointeur, c'est la position
bohmienne
du centre de masse du pointeur.
Oui. Mais même toutes les mesures que tu fais, parce que pour les bohmiens, toute mesure se résume à
une position.
Oui. Donc, même quand tu mesures le ligne, tu vois une position, en fait.
Oui.
Bon, d'accord.
Bon, alors maintenant j'arrive dans mon sujet, les dynamiques, diverses dynamiques stochastiques. J'ai mis diverses parce que je voulais insister que ce n'est pas une théorie, c'est une famille de théories, mais chacun, comme souvent en mécanique quantique, chacun a un peu la sienne. Alors je vous ai mis une référence d'un bon article de revue par Angelo Bassi et d'autres, qui est Review of Quantum Physics. Bon, toutes ces théories fonctionnent du même principe. On modifie les coefficients de lumière on a ajouté un petit terme de localisation qu'on va mettre petit. Enfin, je parle pas. Alors, le point de départ historique, c'est GRW, hiérarchie rémunérée. Alors, le principe, vous le comprenez tout de suite. On suppose que, de façon aléatoire, le vecteur d'état. Le vecteur d'état psi est projeté à un vecteur d'état psi prime obtenu en lui appliquant l'opérateur de projection Fj qui est écrit ici. C'était l'opérateur de projection, C est une constante, et il projette grand R, c'est l'opérateur R. Je l'ai écrit pour une seule particule. Vous saurez comme des grands généralisés à une particule. Et donc, vous voyez qu'il projette l'opérateur R autour d'une valeur Rj. Donc vous avez autant d'opérateurs, vous peuplez votre espace, par exemple, sur un réseau de position petite rj, et vous appliquez constamment votre vecteur d'état, de façon aléatoire, l'ensemble des opérateurs rj. Donc, ce sont des processus stochastiques qui agissent constamment sur la fonction d'autre. Alors, bien sûr, il faut leur attribuer une
position. Attends, je comprends pas. Donc, psi', c'est le résultat d'une dynamique sur psi.
Oui.
C'est le résultat de la dynamique, c'est ça?
Oui.
D'accord.
On peut l'écrire en équation dynamique, mais c'est le principe. Voilà. Psi est transformé en psi prime de façon aléatoire par une infinité d'opérateurs J, qui chacun ont une probabilité qui est donnée par cette loi qui est là. On met un coefficient gamma devant, que vous devinez tout de suite, on va mettre un coefficient gamma petit, parce qu'on ne veut pas que les filles soient trop brutales. Et on dit que la probabilité de chaque processus par unité de temps est donnée par l'élément de matrice de Fj carré entre psi et psi. Alors, ça a pas mal de propriétés sympathiques. Ça reproduit toutes les mécaniques quantiques, y compris la réduction de notre état. Ça se comprend assez bien, si vous voulez. Tout tient dans cette règle de probabilité, comme on transforme un langage, c'est un bon programme. Imaginez que vous ayez une superposition macroscopique d'un système macroscopique qui est dans deux états possibles. Il est soit ici, soit là. C'est par exemple l'aiguille de l'appareil de l'outil. Donc la vecteur d'état, c'est 1 sur racine 2. Toutes les particules ici, toutes les particules là. Ok? Bon, maintenant, j'applique un premier processus aléatoire à ce vecteur d'état. Alors, ça va être soit à gauche ou à droite, disons que c'est à droite. À ce moment-là, pof, j'ai projeté le vecteur d'état à droite. Donc, la norme, je n'agis que sur une seule particule, mais la norme du vecteur d'état à droite est un peu plus grande. Donc, le processus suivant, le Fj' qui va agir, va gagner un peu plus de normes en agissant à droite qu'à gauche. C'est ce que Philippe Paul appelle le jeu du Gamble-Swing Game. Vous avez deux joueurs qui chacun ont 50 dollars, ils raisonnent en dollars, et vous tirez des dés, et une fois sur deux, Alfred donne un dollar à Bernard, et puis celui c'est un nouveau père, Bernard donne un dollar à Alfred. Donc, au départ, ils ont les mêmes chances. Mais une fois que l'un d'entre eux a gagné plus que l'autre, à ce moment-là, il a beaucoup plus de chances de gagner jusqu'à la fin. Parce que sur la progression de chacun des joueurs est une espèce de fonction de diffusion dans l'espace des 100 dollars. Et celui qui est arrivé le plus près des 100 dollars a plus de chances de gagner à la fin.
Parce que tu modifies la probabilité en fonction de l'état de fortune de chaque joueur à ce moment-là. Ce qui ne la modifie pas, ça va. Par exemple, c'est symétrique.
Si tu prends un cas limite, imagine que Imagine que Alfred a par chance arrivé à avoir 99 dollars. Et tu vois qu'il a une chance sur deux de gagner au coup d'après. Et en revanche, son adversaire, lui, il faut que le marché aléatoire fasse faire à l'envers tout le trajet pour qu'il puisse gagner. C'est pas impossible. La chance est beaucoup plus faible. Ok ?
Oui, c'est une théorie qui s'applique parfaitement à notre civilisation en ce qui concerne le fric.
Oui.
Parce que plus t'en as, plus tu as plus t'as des chances de gagner.
Prêt pour lui.
C'est aussi ce que...
Il pleut toujours aussi qu'on y est.
C'est ce que Cassel rappelait aussi l'effet Saint-Mathieu. Il avait fait à l'Académie il y a bien longtemps un exposé pour saluer contre l'effet Saint-Mathieu. C'était dans un cas différent. Il disait que c'était pour l'attribution des prix. Il disait qu'on donne toujours des prix aux gens qui les ont déjà, et pas aux autres. Et que, ouais. Bon, si on fait la moyenne sur un grand nombre de réalisations de ça, je vous passe les maths, on tombe sur quelque chose qui va surprendre personne. C'est-à-dire, on tombe sur l'équation, ou des mots sur l'été, c'est comme le futur de H, comme d'habitude, Liège-Va. Et puis, il y a un deuxième terme, qui est un terme de Lula, qui est un terme dans lequel on est très habitué en théorie des systèmes dynamiques, en théorie de la relaxation, en mécanique statistique, et bien d'autres. Avec le petit gamma devant là, qui est dans ton maître.
Et tu as, pardon, tu sommes sur tous les. Et surtout les projecteurs, c'est ça.
Oui.
D'accord. Oui. Qui sont avec leur bonne probabilité.
Oui.
D'accord. Oui. C'est une somme pondérée, c'est ça. C'est une somme pondérée sur le reste. Pondérée par la bonne probabilité sur les F. Les F, ils sont.
Oui, oui, oui.
Les faits sont aléatoires, les F.
Oui, tu as raison. D'accord. Excuse-moi. Tu as tout à fait raison. J'aurais dû mettre une barre au-dessus de ce qu'il y a derrière. Au-dessus d'ici. Oui, oui, absolument. Oui. Désolé, oui. C'est exactement ce que tu dis. Bon, alors, l'angle du jeu dans cette affaire-là, bon, on a mis deux paramètres dans la théorie. Hein. Il y avait un petit alpha qui était caché ici, hein, qui est l'inverse d'une variable de longueur, et puis un petit gamma qui était caché ici. D'accord ? Donc on a deux paramètres, une longueur de localisation, que j'appelle à L souvent, qui est, tiens, c'est mal écrit, alpha puissance 1,5 devrait être c'est le bon niveau, et la constante de localisation gamma L. Alors, les constantes, on les choisit, on va les mettre, hein, puisqu'on est en train d'inventer le monde, donc on doit éviter deux écueils. Si on met trop peu de localisation, si on prend gamma L tout petit, ben on arrive, on a la théorie standard, et on a les théories où les objets macroscopiques ont accès à des superpositions cohérentes d'état qui sont localisées à droite et à gauche, les chats de lumière, si vous voulez, et donc on n'est pas avancé. Puis si on met trop de localisation, mais c'est bien évident qu'à force de projeter le vecteur d'état, eh bien, on le perturbe trop et qu'on n'obtient plus la théorie standard. Donc il s'agit de passer entre carrés des cils-là. Mais quand on regarde de façon précise, il y a largement la place. Les paramètres standards que prennent les gens, c'est 10-16 secondes moins 1. Alors, je ne l'ai plus en tête, mais je crois que c'est 100 millions d'années, ça c'est beaucoup. Donc ça donne du temps. Donc si vous faites une expérience sur une particule unique comme celle que vous écrivez dans le textbook, eh bien, il y a le temps de faire l'expérience et largement le temps de faire sa thèse. Donc il n'y a pas à s'inquiéter sur l'effet de Gödel. En revanche, si je prends la superposition quantique dont j'avais parlé tout à l'heure, donc c'est du coup mon vecteur d'état qui est soit toutes mes particules dans l'objet macroscopique, soit mon chat entièrement mort, le pauvre, soit mon chat entièrement vivant, ou soit toutes les particules de mon fondateur qui indique 0, ou soit toutes les particules qui plus 1. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Mais chacun des processus de localisation agit séparément sur toutes les particules. Et les effets sont multipliés. Chaque fois qu'on multiplie psi a, qu'on les réduit un petit peu, même un tout petit peu, mais il y a psi a 10 plus 23 particules qui ajoutent leur effet, dont le constant de temps est multiplié par 10 plus 23. Donc 10 puissance moins 16 multiplié par 10 plus 23, ça va être rapide. Donc vous arrivez à une localisation très rapide et le fait que un des deux morceaux de la séquence cohérente disparaît.
Ta longueur alpha, bon, je comprends bien qu'elle colle avec la physique atomique. Est-ce qu'elle colle avec la physique nucléaire? Est-ce qu'elle colle avec la physique des particules? Est-ce qu'elle est pas beaucoup trop grande pour toi?
Toutes ces raisons, alors on en parlait tout à l'heure. Tu as des gens qui ont proposé d'autres théories qui, par exemple, prévoyaient que. C'est pour ces sujets localisés.
10-7, c'est quasi macroscopique.
Oui. Mais si tu mets des alphas trop petits, à ce moment-là, tu vas localiser dans les nucléons dans les noyaux. Et tu vas avoir des radioactivités induites par le processus, donc il faut faire attention. Donc, il ne faut pas prendre seulement la physique atomique, il faut regarder ce que ça donne dans tous les domaines
que ça veut dire que tu ne peux pas mettre le même alpha suivant les physiques que tu fais.
Ah, si, c'est possible, bien sûr aussi. Non, sinon, c'est pas le jeu.
Ah oui, mais.
Mais qu'est-ce qui te trouve?
Bah, 10-7 mètres, c'est une longueur atomique. C'est une longueur. C'est pas du tout une longueur nucléaire ou une longueur.
Non, c'est une longueur macroscopique, comme tu l'as dit il y a une seconde. Les atomes, c'est 10-9 mètres ou 10-10.
Oui, 9, ouais. Ça, c'est pas.
C'est plus petit que. C'est un dixième du micron,
Bon, ça veut dire que c'est 100 fois atomique, d'accord, ça je comprends. Mais c'est gigantesque comparé aux distances.
Oui, bien sûr, oui.
Mais c'est ce qu'il faut, justement.
C'est ce qu'il faut.
C'est ce qu'il faut. Parce que comme ça, tu conserves la physique des particules.
Tu garantis que tu ne vas pas.
C'est-à-dire que ça va prendre une particulière, c'est masse érotique.
Non, ma préoccupation n'est pas là. Est-ce que l'introduction de ce alpha ne va pas modifier complètement la physique en question? Est-ce qu'elle ne va pas modifier la physique elle-même, la dynamique microscopique, cause de collision, etc. Si tu mets un alpha comme ça, je vois pas comment, avec un alpha aussi grand.
Regarde pas quoi alpha.
Tu vas conserver.
Regarde
parce que
gamma aussi.
Parce que tu veux conserver toutes les propriétés que te prévoit la théorie des champs habituels.
Absolument.
Alors, est-ce que tu arrives à les conserver avec un,
oui,
avec
oui.
Un alpha aussi grand?
Bah, ce qui est facile, alpha est grand, mais gamma est très petit. Et donc, tu peux faire la théorie au premier rang. Généralement, en fait, c'est le deuxième rang qui intervient. Donc avec la 10.16, ça fait un bus de 10 à moins 32, tu vois que tu as des perturbations qui ne sont pas énormes.
Oui, donc c'est pas ça.
Disons, les gens qui proposent ces théories-là, j'ai montré un article de revue, ils passent en revue tout, la physique.
Ma question, c'est justement qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils s'en sortent? Ils s'en sortent.
Ils s'en sortent, ils font des jolis tableaux où tu as alpha et gamma. En abscisse en ordonnée, et il te montre les régions qui sont exclues par la physique nucléaire, les régions qui sont exclues par la physique moléculaire, etc. Et puis les régions qui sont plausibles, il te montre l'espace qui reste encore.
D'accord.
Oui, d'accord. Il y a des gens qui font des manips, j'en parlais tout à l'heure, à Vienne, par exemple, sur les grosses molécules, pour pouvoir, si on ne peut pas, arriver à détecter ce fait. Donc, en gros, pour les objets macroscopiques, on a un effet cumulatif qui fait que les QSMDS de Likert, les Quantum Superpositions of Macroscopically Distant States, disparaissent très vite. Donc, on a cette belle unicité macroscopique dont on rêvait dans la dynamique. Le reste, je l'ai dit, on utilise le fait que le monde à Avogadro est très grand. Ça m'inquiète chaque fois qu'il fait ça, mais non, c'est pas là. Alors, une autre version, peut-être plus
facile. Pardon, là tu parles de la physique ordinaire avec la position, c'est la position que tu trouves. Qu'est-ce que tu fais en théorie des champs? C'est le champ, comme pour de Broglie-Bohm, c'est le champ électrique.
Alors, là, généralement, les gens disent, on va considérer qu'il n'y a que les particules massives qu'on va se trouver. Donc on agisse sur les positions des particules. Je n'ai pas vu de théorie, pour l'instant ça existe, mais je ne connais pas. Il y a peut-être des gens qui prolongent ces équations probabilistes, hein, je n'ai pas dit déterministes,
oui.
Directement par exemple sur les champs. Ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'était les particules sur lesquelles on agissait. je ne sais pas trop, je ne connais pas tout sur ce sujet-là. Ce que je voulais mentionner aussi, c'est qu'il existe une deuxième version. La version précédente était la version qu'on appelle des hits, ou quelquefois des flashs, des flashes. C'est boum, on projette le vecteur d'état. Il y a des gens qui préfèrent faire une théorie un peu plus continue. Et ça a été lancé par Philip Pearl, CSL, Continuous Spontaneous Localization. En gros, je ne veux pas rentrer dans le détail, on écrit une équation dynamique où D sur dt de psi. Alors, j'ai pas, il y a bien sûr, il y a bien sûr le terme hamiltonien habituel que j'ai même pas écrit. Mais ça n'écrit que le terme qu'on ajoute. Et WK là-dedans, alors les AK c'est une série d'opérateurs qui jouent le rôle des FJ que j'avais introduit avant. Et les WK ce sont des, souvent c'est des processus de binaire. Ce sont des fonctions aléatoires de temps de corrélation nulle. Donc on écrit une équation comme ça, et là aussi on doit choisir une loi de probabilité, comme précédemment. Donc on décide que la loi de probabilité, vous avez toute une série de processus de linéaires qui agissent en parallèle, et ce qu'il y avait une constante CN, c'est le vecteur d'état après, c'est le vecteur d'état obtenu après action du nouvel. Ça ressemble beaucoup à la probabilité double que je vais Et comme tout à l'heure, si vous voulez, on peut annoncer autre part. On peut, ça, c'est un vecteur d'état qui est normalisé. On peut l'écrire pour un vecteur d'état normalisé. Ou une autre façon d'écrire, c'est pour les gens qui aiment bien. Nous, on aime bien parce qu'on est habitué à l'amour de tout processus d'orientation. C'est les processus. Écrire ça avec des fonctions aléatoires, des termes vitaux, de Stratonovitch, si vous préférez. On peut écrire que d psi de t est égal à, ça c'est le terme hamiltonien, alors vous voyez, pas le premier le terme hamiltonien. Là, vous avez un terme aléatoire, des W, c'est la variation du processus de binaire. Et ça, c'est le terme d'ito, le terme quadratique en W, qui est pour rien d'autre. Donc vous avez comme ça une belle équation probabiliste qui donne l'évolution du vecteur d'état. Alors, ce que je voulais mentionner aussi, c'est que d'un point de vue pratique et pas du tout fondamental, ces théories sont utiles. Et ils ont même été utilisées dans mon labo. Ça, c'est un très joli travail de Molmer, le Danois, et Jean Delbar, qui vous connaissez probablement, qu'ils ont fait il y a longtemps. Ils ont montré que si on s'intéresse à l'évolution d'un petit système qui crée un gros réservoir, où chacun sait que le petit système, son équation, son opérateur densité évolue et l'équation est une équation pilote. Et résoudre cette équation pilote, c'est quelquefois assez compliqué. Et en fait, il est beaucoup plus simple d'attribuer au petit système une série de vecteurs d'état, qui sont par exemple les vecteurs propres de son opérateur densité, et de les faire évoluer de façon stochastique, différemment, et après ça, de sommer les projecteurs sur ces vecteurs d'état. C'est une méthode qui est assez efficace. Ça se comprend assez bien d'ailleurs. Il vaut mieux travailler avec n vecteurs d'état qu'avec n deux éléments de matrice d'une opérateur densité. Donc ce genre de méthode-là, dans le cadre de la mécanique quantique tout à fait standard, c'est utile aussi. Et ça a servi pour les manips d'optique quantique. Alors maintenant on arrive, on a passé la partie dure, la partie mathématique. Et on arrive un peu à la discussion des effets observables, ce que Roger a un petit peu anticipé tout à l'heure. Bon, le premier effet observable, c'était le but de la théorie, c'était la disparition de ces fameux QSNDS, et donc ça on peut considérer que c'est quelque chose qui est observé tous les jours, donc c'est compatible avec la théorie. Alors, ce que prévoit cette théorie, vous l'avez vu, donc il y a un basculement qui tient le nombre de particules entre les petits systèmes sur lesquels la projection est très lente et les grands systèmes sur lesquels la projection est rapide. Donc on a envie de faire des expériences sur les systèmes intermédiaires, les systèmes mésoscopiques. Et donc cette théorie prévoit que si on fait des expériences d'interférence avec des grosses macromolécules, eh bien, à partir d'un certain moment, les interférences, après ça, après cette taille des nanomolécules, au certain temps, trajet d'interférence, les interférences doivent disparaître. Donc ça, c'est un effet qui ne provoque pas la mécanique quantique. Et il y a des gens qui travaillent sur le sujet. Je ne sais pas si vous connaissez le nom de Marcus Arndt, il y a dans le groupe de Vienne, il y a un groupe très actif, assez impressionnant, qui fait des expériences sur l'utilisation de l'interféromètre de Talbot pour arriver à voir si, arriver désespérément à mettre en défaut la mécanique quantique.
Pourquoi l'outil de mécanique quantique pas comme ça? Est-ce qu'avec la décohérence, on n'a pas des chutes d'effet équivalents?
Très bonne remarque, ça c'est la grosse difficulté de toute dynamique. C'est que ce qu'on cherche à une expérience comme ça, c'est quelque chose qui ressemble terriblement à la décohérence. Donc si on n'est pas sûr d'avoir éliminé tous les photons qui traînent à la région, les molécules, etc., on peut se tromper. Et je vais y revenir pour la manip d'après. Donc il faut être très sûr de ce qu'on fait. Il faut que ce soit une manip très difficile à connaître.
Ta question, ton équation, par exemple, d'évolution stochastique de la matrice densité, celle que tu as écrite au début, l'héros sur VT, avec le projecteur, etc. En quoi est-ce qu'elle diffère, une équation d'évolution, de la même chose en présence de l'environnement? Oui, c'est la même question.
C'est la même question. C'est la même, à ceci près, que je vais rajouter mon petit...
Non, mais en quoi l'équation est différente?
Les coefficients numériques sont légèrement différents, un peu plus grands. Je rajoute mon terme en gamma L est un terme habituel.
Donc ton terme en gamma est plus grand que celui d'une cohérence habituelle?
Non, ça dépend du système. Pour un système macroscopique, il est beaucoup plus grand. D'accord. Pour un système microscopique, il est beaucoup plus petit.
Et pour
un système
mésoscopique,
on espère qu'il soit du même ordre.
Donc la différence, c'est le fait que ton effet de. Le terme stochastique. Lui dépend automatiquement de la manière dont tu l'es construit, de la taille du système. Tandis que les effets de décohérence habituels, non. D'accord.
Enfin, il dit que l'effet de décohérence habituelle ne dépend pas de la taille du système.
Pas l'équation. L'équation n'en dépend pas. C'est pas l'équation qui en dépend, c'est l'effet final qui en dépend.
Oui.
D'accord.
Alors. Comme vous êtes tous de bons praticiens, vous savez que quand on localise un objet, on augmente son énergie cinétique. On change la force de l'énergie, donc on augmente son énergie cinétique. Donc il y a des gens qui disent, si cette théorie est vraie, si je mets un kilo de silicium à un millidegré K dans le planétoïde star, eh bien, si je contrôle bien les pertes, je dois voir qu'ils se chauffent spontanément. Il y a des gens qui font des manips dans l'espoir de voir ça. Ça prévoit aussi, alors là j'ai pondu un papier avec Philippe Corr là-dessus, ça prévoit que dans les gaz ultra froids, vous savez que physique atomique on fait des gaz à des nanocars maintenant, et bien ça prévoit que les gaz ultra froids, les condensats par exemple, se réchauffent un peu plus vite que sous les effets du gaz résiduel dans la manip.
Il n'y a pas un problème de conservation de l'énergie. Parce que du coup, Tu crées de la chaleur à partir de spontanées qui viennent de nous et nous, donc c'est un problème de conservation d'énergie.
Oui.
Ah, d'accord.
Il faut dire que ce champ aléatoire communique un peu d'énergie pour le système.
Et ce champ aléatoire-là, lui, indépendamment de son effet sur la localisation, on n'a pas d'autre moyen de directement le mettre en évidence.
Écoute, c'était une idée, ça se fait. Nous, on peut chercher différentes idées, mais.
C'est vrai que je comprends la question aussi du bienfait, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un champ qui est inventé de façon à pouvoir obtenir l'effet qu'on veut, c'est-à-dire qu'on a. En général, on aime bien qu'il y ait deux effets supplémentaires par rapport à l'effet pour lequel on l'a inventé.
Non, si tu veux me faire dire que ce sont des co-médocs. Je le considérais bien volontiers.
Il sert qu'à ça.
Ah oui, mais attention, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important.
Oui, oui.
L'enjeu.
Non, mais c'est vrai que quand même.
C'est d'avoir une dynamique.
La conservation de l'énergie, c'est quand même important.
C'est un problème important.
Alors peut-être qu'en cosmologie, c'est le vivant qui est là-dedans. C'est un
petit peu rêvé. Parce qu'il y a l'idée de Penrose, que c'est un champ qui vient, je ne sais pas, de la gravitation.
Oui, oui.
Est-ce que je peux me parler de Penrose ou est-ce que je vais me parler de Penrose? La conservation de l'énergie vient du fait que les ressources d'été, c'est que l'utilisateur de H et de Rho. Si des grosses unités, c'est autre chose, un H c'est plus constant. Donc, c'est autre chose, c'est constant. Hein. C'est autre chose qui a une petite correction à H. Il y a beaucoup de lois de conservation qui changent un peu. Bah, ça dépend aussi de ça peut venir. Si tu as fait le vieux H énergie, il n'est pas conservé. Bon, donc j'ai parlé du chauffage alors, il y a des manipulations assez rigolotes en optomécanique, donc je voulais dire un petit mot. Ce sont des manipulations exactement du type dont vous parliez tout à l'heure. Ce sont des manipulations avec ces micro-oscillations mécaniques. C'est ce qu'on appelle l'optomécanique quantique. Vous avez un petit oscillation mécanique qui a un degré de surtension un petit peu faramineux. Et les gens sont actuellement en train de développer des méthodes expérimentales pour arriver à mettre cette oscillation mécanique dans l'état fondamental quantique. Alors, il y a le groupe de Trudelman qui travaille là-dessus dans notre labo. Donc vous avez un petit oscillateur dont vous détectez la position avec un squid, vous pouvez réagir sur cette position avec le dispositif qui est mesuré en bas, et on mesure le bruit spontané d'oscillation de ce oscillateur en fonction de la température. Alors c'est venu dur, hein, et les gens descendent jusqu'à 20 millicales, donc c'est froid. Et alors la dernière manip qui a été publiée en septembre 2017, et les gens disent, on trouve un résidu. Alors, ils sont prudents, c'est pas idiot quand même. Ils disent quelque chose pour... qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent oui, ils disent les résultats négatifs sont robustes. Si on avait trouvé zéro, on était sûr de ce qu'on disait. Un résultat positif, et bien, on s'est trompé et qu'on a tout trompé. Hein, donc.
Ouais, les sources, oui.
Oui, mais je ne vous blâme pas de croire pour dire que c'est amusant. C'est pour vous montrer que ça n'est pas entièrement un arbre sec.
Oui, oui.
Il y a des manips qui se font dans ce domaine-là. Hein. Enfin, je n'en dis pas plus. Je ne suis pas en train de vous dire que ça y est, on le sait.
Oui,
bon, alors, Dirichlet et Mohs. Généralement, dans les théories standards, on a deux paramètres, hein, comme on a dit, A et gamma. Alors ça ne plaisait pas à Yoshi, donc il a dit, mais tout ça c'est idiot, en fait c'est la gravité qui produit la projection, et donc il a conduit une théorie assez jolie, mathématiquement, où il n'y avait plus qu'une seule constante, qui était la constante du Newton. Donc ça c'était plutôt sympa, simplement on tombait sur l'objection que vous avez tout à l'heure. Si vous l'appliquez par exemple à la physique nucléaire, vous apercevez que la durée de vie de certains noyaux, je vous dis lesquels, était divisée en 10 ou 100 par rapport à ce qu'on observe. Donc c'était une théorie qui ne marchait pas avec l'expérience. Et à ma connaissance, personne jusqu'à maintenant n'est arrivé à faire une théorie sans constante fondamentale haute de danger.
Ah oui, moi j'avais entendu Penrose qui était de l'optimisme démesuré il y a une vingtaine d'années, en disant c'est ça, mais je ne savais pas qu'il y avait cette objection.
Penrose, bon, c'est un petit peu autre chose qu'il propose. Hein, c'est souvent des papiers extrêmement vagues qui sont sortis. Il y en a un où il dit, c'est ce que j'ai résumé là, il dit, d'après ce que j'ai compris, une superposition d'un système macroscopique localisé entre deux régions différentes produit une superposition de deux espaces temps différents. Ça, on comprend tous. Bon, alors, il introduit un principe de covariance générale qui permet de montrer qu'il se produit alors une incertitude en énergie delta R. Et là, Penrose nous dit, bon, mais c'est gagné, maintenant que j'ai delta R, eh bien, j'ai un temps qui est l'inverse de delta R, donc c'est la durée de vie qui va nous voir sur la position. Donc c'est ça, là, c'est ça la théorie de Penrose. Il n'est pas idiot, comme vous savez, il n'est pas malhonnête non plus, donc il dit, j'extrais ces lignes de mon bouquin, il dit bien que cette proposition de mécanisme n'est pas une théorie de la révolution de l'état quantique. Ça indiquerait simplement le niveau auquel on pourrait attendre les déviations par rapport à la théorie de Schrödinger standard unitaire.
D'accord. J'avais dû l'entendre à peu près à cette époque-là. Et évidemment, quand il parle, il est beaucoup plus enthousiaste que quand il écrit.
Il en parle sûrement tellement mieux que moi. Enfin, je ne pouvais pas faire cet exposé sans mentionner.
Moi, quand je l'avais entendu, c'était. Voilà.
Non, moi, je n'ai jamais entendu sur ce qui est.
C'est extraordinaire.
Oui.
conférencier fabuleux.
Bon, alors, comment ça marche en pratique, ces théories, modèles, si vous voulez, quelques exemples. Alors d'abord, je vais vous supposer que je suis en train de mesurer la trajectoire d'une particule, avec un bon vieux, une bonne vieille chambre à boules comme autrefois, une chambre à boules, ce que vous voulez. Donc, mon gamma, on a pris extrêmement petit, la particule toute seule, elle s'en fiche. Donc, sa fonctionnement se développe, elle n'est absolument pas localisée dans la chambre à boules. Mais attention, elle interagit avec les particules de la chambre à boules. Donc, la chambre à boules, c'est un métastable, et la bulle grossit de plus en plus. Et là, on va finir par avoir un objet dont la taille atteint les 10-7 cm. Et alors là, pour le coup, cet objet-là, pof, il est réduit par le processus de projection. Et alors, comme c'est un seul morceau de vecteur d'état, c'est un effet de non-localité, si vous voulez, du coup, la particule, elle est projetée, elle aussi. Donc ce qu'on projette, c'est l'appareil de mesure, ou les intermédiaires de l'appareil de mesure, et la particule, elle, part par effet secondaire.
Par intrication.
Par intrication. L'objet microscopique n'est projeté que par intrication. C'est amusant comme mécanisme. Donc si vous voulez, c'est une espèce de rétroaction, comme j'ai mis là, du pointeur sur la particule qui la localise. Alors, on peut faire des interférences sur les agrégats, on en a parlé, donc je n'en parle pas. Ce qui est amusant aussi, je trouve, c'est d'écrire une expérience EPR Bell et d'écrire quand apparaît l'unicité du résultat et comment on voit la non-localité. Alors, je commence par DBD, comment ça se passe dans DBD. Donc, je vais discuter sur deux spins, c'est deux facettes que sur deux photons. Donc j'ai ma source qui m'émet mes deux spins dans un état intriqué, par exemple un état singulier. Donc tant que les paquets d'ondes sont grands, il n'y a pas d'effet quantique qui se produit sur les valeurs vers l'extérieur. Mes deux paquets d'ondes se propagent et les positions bohmiennes de la chacune des particules suivent sagement et se passent rien. Maintenant, disons la particule 1 arrive dans un gradient chaminique que moi je vais orienter dans une direction que j'ai choisie. À ce moment-là, les deux paquets d'ondes, standard, en fait, pas bohmien, les deux paquets d'ondes se séparent. Et là, la position bohmienne, elle est forcée de faire un choix. Un pauvre malheureux, vous savez qu'elle est astreinte à suivre la fonction d'onde. Elle ne peut pas être à deux endroits à la fois. Donc elle part dans un paquet d'ondes ou dans l'autre. Et à partir de ce moment-là, le spin de ma particule qui a subi le préhension magnétique est orientée d'une certaine direction. Vous savez, sur le trajectoire bohmienne, on peut suivre la direction de spin. C'est assez joli, c'est les, comment ça s'appelle, le père et le fils, les deux Français qui sont ingénieurs et qui font des schémas absolument magnifiques des trajectoires bohmiennes. Je m'y vais, peu importe. Bon, donc ma particule qui a interagi avec le champ est orientée. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que pour la fonction d'onde, j'ai toujours une seule fonction d'onde pour les deux particules, mais c'est intriqué. Et donc, la fonction d'onde, la bonne base pour la décomposer, c'est bien évidemment la base de la première mesure. Donc, du coup, ça réagit par application sur la base de la deuxième mesure. Et donc, à ce moment-là, vous voyez que le spin de la deuxième particule s'oriente à la direction opposée à la première. Et alors, quand elle arrive sur le deuxième champ de Lagrange, à son tour, il n'est pas étonnant que vous obteniez par la loi de Magnus les probabilités quantiques habituelles. Donc là, on est dans un schéma où c'est le premier cas de champ magnétique qui oriente le spin de la première particule, et par un champ local, nous sommes bohmiens, nous sommes non locaux, la deuxième particule prend un spin exactement opposé.
Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, la première particule, ce qui oriente son spin, c'est l'effet de localisation macroscopique.
Non. Qui... J'étais bohmien, donc je n'ai pas. Je ne vais pas prêter à discuter la théorie de localisation. Là, je discute la théorie de Bohm, qui n'a pas de localisation. Donc, la théorie de Bohm, c'est la séparation des deux paquets d'ondes de la première particule qui impose à la position bonnienne de suivre l'un d'entre eux, mais pas celui des deux à la fois. Et à ce moment-là, comme elle suit l'un d'entre eux, la polarisation de la première particule est fixée avec une direction qui dépend de la direction du premier analyseur. Et à ce moment-là, comme l'état est intriqué, c'est là qu'un nombre de qualité intervient, hop, la polarisation du deuxième est fixée à la direction opposée. Et quand ça arrive sur le deuxième élément de chemise de l'arc, il n'y a plus de mystère, hein, à partir de là, comme c'est la polarisation.
Mais tu as toujours le problème qui peut parler au niveau du contexte standard, de difficulté entre lequel les deux commencent.
J'ai pris bien soin de prendre deux particules qui, deux aimants Charivard qui n'étaient pas la même distance.
Oui, voilà. Parce que si tu les
prends, sont exactement la même distance,
c'est un problème. Si ils ont séparé par la navale du genre espace, c'est embêté.
De toute façon, l'analyse que j'ai faite pour bien, elle ne tient pas. L'orientation du deuxième swing qui suit le premier. C'est pas du tout un phénomène qui se passe dans le premier milieu. Donc c'est le mouvement relativiste, c'est complètement.
C'est complètement. Bob
non, Bob l'accepte. Bob l'accepte, il te dit ma théorie n'est pas contradictoire avec la relativité en sens qu'elle ne permet aucun signe supraluminal. Donc c'est complètement légal qu'il y ait des communications supraluminales qui sont subcontinues.
Voilà. Mais ça c'est un argument, enfin c'est un argument maintenant parce que c'est un tué, mais je trouve que c'est un argument de faux. Se contenter de dire ça ne vient pas la mécanique quantique parce qu'il n'y a pas de communication supraliminale n'est pas un argument qui tient la route. Ça ne tient pas debout, ça c'est pas suffisant. Encore une fois, il suffit de prendre un exemple concret dans lequel il n'y a pas de communication supraliminale possible et où pourtant il y aura un problème. Si tu as un truc classique, on prend simplement un phénomène classique, avec un phénomène aléatoire qui se produit à un endroit, par exemple un jeu de dés, donc dés sur aléatoire, et que de manière, alors évidemment tu ne peux pas l'utiliser, et que tu as deux endroits où tu tires des dés, et imagine que le dé que tu tires ici, va donner un résultat de l'autre côté toujours corrélé de telle sorte que la somme des deux sera une 6, entre deux, enfin 7, ce que tu veux, parce que c'est 7, et que tu dis je ne suis pas gêné, mais tu l'es quand même, tu ne peux pas utiliser ça pour faire de la communication supraliminale, pour la bonne raison, c'est la seule raison qui existe en mécanique quantique, que c'est non déterminé ici, donc tu ne peux pas l'utiliser, tu ne sais pas ce que ça va donner. Mais si néanmoins, à chaque fois qu'ici il y a un truc qui sort, de manière instantanée, il y a un truc corrélé qui sort là-bas, ça pose un vrai problème quand même. Donc le fait de dire je ne peux pas m'en servir pour faire de la communication, qui est ce que disent beaucoup de physiciens, n'est absolument pas suffisant comme raisonnement.
Tu me fais dire ce que je n'ai pas dit là.
J'ai dit le truc habituel,
je suis d'accord, oui. Et qui s'adresse aux gens qui disent qu'il n'y a pas de communication supraliminale, donc tout est bien.
Voilà.
Hein, ouais. Tout est bien local.
Mais non, c'est pas tout est bien local. Il n'y a pas de communication supraluminale, donc on est tranquille avec la relativité. Non ? Non, parce que dans le cas que je viens de décrire, il n'y a aucune communication supraluminale. Mais c'est quand même. Si on était capable de le faire, on trouverait que c'est de la magie. Donc il y a un problème. Et ça, c'est un truc qui est récurrent, qui revient dans les discours de tous les gens qui veulent se débarrasser du problème. En disant, il n'y a pas de problème avec la relativité, de toute façon, il n'y a pas de communication supraliminale possible, donc on est tranquille. Non, je ne suis pas d'accord. C'est un argument qui est insuffisant.
C'est un autre combat, je crois. Mais en tout cas, il est clair que dans la théorie de Newton, que ce soit Bohm et tous les autres, ils acceptent qu'ils veulent la relativité. Mais pas d'une façon.
Statistiquement, il y a d'autres.
Oui. Par exemple, il est très important, toujours dans une théorie bohmienne, de vérifier que lorsque tu calcules l'opérateur densité sur beaucoup de réalisations, tu retrouves exactement l'équation quantique. Et à ce moment-là, tous les théorèmes qui t'assurent qu'il n'y a pas de communication entre quantique standard, statique, il faut s'assurer à chaque fois que la modification n'intervient que pour les événements individuels, mais pas de façon statistique. Bon, Alors, là, j'avais décrit en point de vue Boumien. Je crois que c'est utile de savoir, parce que le nom de papier qu'on a tous référé sur les discussions Boumiennes de l'expérience de PRM, qui sont tous plus fous que les uns que les autres, c'est quand même bien d'avoir en tête comment ça se passe vraiment dans la description Boumienne. Alors maintenant, je vais faire la description JRW. C'est pas la même chose. Je reprends maintenant la mamie, comment la première particule pénètre dans le gradient de champ magnétique. Bon, c'est une particule qui pénètre dans la population extérieure, il se passe rien de spécial. Il y a une seule particule, et donc elle se propage et monte. L'autre aussi. Donc, c'est un moment où, à la sortie, pour faire le milieu, à la sortie du moins de champ du carnat, il faut que je mesure si la particule a été déliée vers le haut ou vers le bas. Donc là, je vais mettre un détecteur. Le détecteur, il va capter la particule. C'est un système métastable qui va lancer des électrons, je ne sais quoi. Et un jour ou l'autre, ça va agir sur quelque chose de macroscopique que regarde l'expérimentateur. Donc, quand on arrive à ce niveau macroscopique, pof, là, le vecteur d'état est projeté. Et par intrication, du coup, les malheureux spins, eux, sont projetés aussi. C'est comme le cas de tout à l'heure. Donc, vous avez deux descriptions assez différentes où la projection intervient à des moments très différents.
Je ne comprends pas. Ça veut dire que bon, l'irréversibilité de l'appareil qui tient son caractère stochastique n'agit pas seulement à l'endroit où il est, mais agit aussi à l'endroit où se trouve l'autre particule. Parce que le choix du résultat.
La condition que tout ça soit
intriqué. Non, mais le choix du résultat est fait par l'appareil.
Oui.
Mais alors, si l'appareil est là, le choix du résultat sur l'autre particule est fait par cet appareil-là, je comprends pas comment.
Non, alors, tu veux discuter le cas où les deux mesures sont simultanées ou décalées dans le temps?
Non, j'envoie juste.
Une seule particule.
J'envoie une paire de particules.
Oui, et tu fais la mesure sur
l'une. Comme ça, je fais une mesure sur l'une.
Alors, c'est le moment où l'appareil de mesure de l'une commence à enregistrer un résultat à niveau macroscopique, où le vecteur d'état est projeté. C'est le vecteur d'état de tout le monde. C'est un vecteur d'état intriqué. Donc,
je ne comprends pas bien comment l'appareil projette le vecteur d'état global, quantique, comment il le projette, étant donné qu'il n'agit que localement.
La mécanique quantique est non locale, c'est bien une unité de base.
Non, mais si c'est dû à l'appareil. Si c'est dû à. Si le choix est gouverné par l'appareil.
C'est exactement comme la réduction du paquet de boussole qu'on enseigne aux enfants des écoles. Tu leur dis, je projette le vecteur d'état sous l'influence à la première mesure, et c'est l'ensemble du vecteur d'état, donc ça concerne aussi l'autre particule. C'est la réalisation mathématique, dynamique, si tu veux, du vecteur.
Je vais le dire autrement. Bon, je mets deux appareils, l'un ici, l'autre là, et qui mesurent simultanément les deux particules.
Simultanément, d'accord.
Et qui mesurent simultanément. Ces appareils ne communiquent pas avec l'autre du tout. Donc leurs effets sont totalement décorrélés. Alors comment est-ce que l'appareil A et l'appareil B vont fournir automatiquement des résultats opposés?
Tu vois ça en arrivant à PR.
Puisque c'est l'appareil qui cause.
Si tu prends la mécanique standard.
Non, mais c'est pas l'appareil qui cause.
La mécanique classique, ça marche pas.
Ton premier appareil effectue une réduction du paquet d'ondes et donc automatiquement.
Oui.
Mais c'est pareil. Là. C'est juste que tu as un mécanisme concret pour la réduction du paquet d'ondes.
Oui, mais ce que je comprends pas. C'est le mécanisme concret que je comprends pas. Parce que le mécanisme concret.
Non, mais tu te fiches du mécanisme concret, du moment que tu en as un pour réduire le paquet d'ondes.
Je veux dire autrement, si vous voulez faire la théorie.
C'en est un, mais c'en est deux différents, puisque cette réduction est liée vraiment à l'appareil. J'ai deux appareils indépendants.
Oui, mais mécanique quantique standard aussi, ça fait deux appareils complètement indépendants.
Oui, mais c'est pas l'appareil qui fait le travail.
Bah si.
Dans le cas, c'est l'appareil qui fait le travail. Non, c'est pas l'appareil qui fait le travail, lequel est quoi.
Roger, si je te dis que cet appareil-là projette ce spin-là, localement, tu es content. Maintenant, si je te dis que les deux spins sont intriqués, comme ce spin-là est projeté, celui-là est projeté, tu es content aussi. Et à ce moment-là, tout va bien.
Oui, mais ce qui m'embête, c'est que la projection est fabriquée par, par le terme stochastique qui est lié à l'appareil. C'est ça qui me choque.
Tu oublies le type, c'est complètement indépendant du type de la façon dont la projection est réalisée.
Il y a peut-être un moyen de répondre, c'est-à-dire qu'en mécanique quantique traditionnelle, on se contente de dire à un moment donné c'est réduit, on ne sait pas pourquoi, et par intrication, ça se projette de l'autre côté. Oui. Là, on dit exactement la même chose, à ceci près qu'on rajoute un truc, c'est qu'on dit on sait pourquoi c'est réduit, parce qu'on a un mécanisme implicite. Mais finalement, ce mécanisme implicite va rajouter une cause à cette réduction.
Le sujet, c'est qu'il y a deux mécanismes explicites. C'est ça, le sujet. C'est qu'il y a deux mécanismes explicites indépendants.
Excuse-moi, Roger, si je voulais faire la théorie complète GRW de ça, il faut considérer, il faut être borien, il faut considérer que l'ensemble des deux H1, c'est un seul appareil de mesure. Alors si je faisais la théorie ABN,
tes appareils eux-mêmes sont corrélés par les herbes stochastiques, les deux appareils sont corrélés entre eux.
Mais si je voulais appliquer votre théorie de la mesure, sur une expérience PRD, je serais bien forcé de considérer les deux appareils comme un seul appareil de mesure. Tu vas traiter maintenant les deux appareils comme un seul bain thermique.
Le problème vient du fait que c'est le terme stochastique de l'équation qui provoque le choix de l'un ou de l'autre. Et ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression, de la manière dont tu l'écris, que ce terme stochastique est lié, il est local. Donc il y a deux termes stochastiques locaux. Alors est-ce qu'ils sont corrélés, ces termes stochastiques, automatiquement?
C'est exactement ça qui me gêne. Moi, c'est une dissymétrie conceptuelle. Parce que d'un côté, on a un mécanisme très concret, très local, qui permet de réduire le péridon là, ici, cet endroit. Et après, on a un truc, quelque chose d'autre qui n'a rien à voir, qui est une influence entre guillemets non locale, et qui permet d'expliquer par un tout autre processus la réduction de l'autre particule.
Non, mais tu ne les considères pas indépendamment, tu considères les choses globalement.
Oui, mais ça veut dire que les projecteurs, qui sont dans les...
Regarde, Roger, c'est là-dessus que tu agis. Hein. C'est pas, on n'est pas en physique classique. On est en train de parler qu'on agit sur le vecteur d'état. Et donc,
oui, si donc c'est le plus agir. J'ai bien compris. C'est exactement ça que je dis. Tes projecteurs.
Là-dedans, il y avait deux particules.
J'ai compris. Mais alors, ça signifie qu'il faut que j'admette que les projecteurs stochastiques qui sont introduits dès le départ, tes projecteurs, comment ils s'appelaient, F, ces projecteurs agissent non pas dans l'espace ordinaire, mais ils agissent dans l'espace des vertes simultanément dans les deux appareils.
Non, tu te trompes. Si chacun des projecteurs est parfaitement local, mais ils agissent indépendamment, ils agissent sur ces deux-là. Et comme c'est un seul vecteur d'état qui décrit le système, le nom de localité, il est dans le vecteur d'état. Il n'est pas dans les projecteurs. Oui. Il y a un seul vecteur d'état sur lequel tu peux agir. Et donc tout ce que tu fais sur un morceau-là concerne tout le morceau. Alors, si on avait un produit de ce qui se passe dans Galaxy de Bob par la c'est comme tu dis. Tu dis en fait qu'il y a un seul vecteur d'état sur lequel tu agis.
Tu agis sur le vecteur d'état avec un appareil. Oui. Bon, cet appareil, lui, il est macroscopique, donc lui, il choisit un des états. Oui. Alors ça signifie que l'appareil, en réalité, il est constitué à la fois de ça et de ça, et qu'il choisit un résultat simultanément là et là. Oui. Bon, c'est exactement ça qui me gêne. C'est que cet appareil agit dans l'espace libre, il n'agit pas dans l'espace ordinaire. Mais étant donné qu'il est constitué de deux parties qui sont localisées, une là et une là, lui aussi est forcément dans le cadre. Ces projecteurs qui sont dans l'équation.
Non, la mathématique est purement locale. Ils sont non locaux. Non, la mathématique est purement locale. mais le concept même de vecteur d'état est un concept non local.
Ça, bien sûr, c'est d'accord.
Et le port dirait, il faut considérer la valeur PPR, l'ensemble de l'appareil de mesure, comme un seul et unique appareil de mesure.
D'accord, mais c'est exactement ce que je dis, c'est ça qui me gêne. C'est que cet appareil de mesure, lui-même, a quelque chose de stochastique à l'intérieur, qui est très fort et qui lui fait choisir des choses. Et ce comportement stochastique est simultané pour les deux parties de l'appareil. C'est tout. Bon, c'est comme ça, mais il faut bien s'en rendre compte.
Vous avez dit drôle, mais pas trop drôle. Je ne peux pas me faire dire que. C'est la corrélation entre les bruits à l'échelle de l'appareil. C'est le vecteur d'état qui transporte l'information.
Oui, c'est pas ça que je veux dire, mais étant donné que c'est le vecteur d'état que tu réduis, voilà. tu le réduis à l'aide de l'objet macroscopique qui a deux parties, et cette réduction se fait simultanément dans les deux parties.
Absolument.
Mais elle se fait.
Je voulais schématiser avec ça, oui.
D'accord, mais alors ça, c'est. Ça, c'est faux.
On a le même sentiment.
Peut-être. Donc, j'ai tendance à dire que c'est la mécanique quantique. La mécanique quantique est choquante, hein, c'est sûr.
Non, mais c'est. Oui, mais c'est.
Oui, mais. Il y a une cohérence.
Non.
Il y a une cohérence. Là, on a l'impression de deux pièces rapportées.
Là, ce qui est choquant, c'est que ce qui est rajouté, c'est cette stochasticité. Cette stochasticité elle-même a des propriétés un peu bizarres de nos localités.
Non, ça c'est pas vrai ce que tu dis justement.
Si.
L'astuce du schéma de GRW, c'est que tu rajoutes au processus stochastique, tu rajoutes aucune non-localité. La non-localité qui est déjà la mécanique quantique est suffisante pour tout expliquer. Tes processus de projection sont parfaitement locaux. C'est pas la peine. Enfin, tu veux faire ce que tu dis, hein, en plus rajouter non-localité dans les W, mais c'est pas du tout nécessaire. Non, les processus
eux-mêmes. On peut prendre un parallèle. Imagine, Roger, imagine que tu fasses l'expérience suivante. Enfin, tu fais cette expérience-là, mais tu regardes ton appareil à un endroit, pas encore la mesure de l'autre côté. Tu regardes ton appareil à un endroit. On dit, en mécanique classique traditionnelle, hein, quantique traditionnelle, c'est la mesure que tu as faite, que Alice a faite à son endroit, qui va réduire la fonction de onde.
Non, c'est pas
ça qu'on dit.
Or, ça c'est une drôle de façon de dire, la réduction, elle se fait uniquement parce que tu ne prévois que de façon statistique le résultat, et dans ta statistique, tu choisis la moitié des résultats, la moitié qui a donné tel résultat avec l'appareil.
C'est ce choix qui est
la réduction. La réduction, c'est rien de plus.
Dans la manière habituelle de présenter le PR, on ne se place pas en statistique, on se place sur un cas.
Ah, ça, c'est complètement idiot.
Un cas où tu as un système, regardes le système à un endroit.
Non, c'est pas vrai.
Le fait de regarder. Non, je te donne la présentation faite par
EPR. Dire ça, c'est une absurdité. En réalité, pour faire EPR, tu recommences 10 000 fois l'expérience. Il y a 5 000 fois dans lesquelles ça donne vers le haut. Tu en choisis un qui a donné vers le haut, tu le sélectionnes. Et pour celui-là,
Roger,
l'autre, tu sais qu'il est vers le bas.
Ce que tu es en train de dire, bien sûr, permet de faire des corrélations statistiques après. Et comme toi, tu privilégies l'interprétation statistique de la mécanique quantique.
Oui, c'est dans ton cadre. Moi, je suis.
Mais c'est pas le cadre habituel des gens qui font de la mécanique quantique pour essayer d'individuel.
Oui, mais ici, il s'agit de faire autre chose. Il s'agit de faire autre chose et de comprendre ça, mais de le comprendre à l'aide d'un phénomène stochastique qui va me permettre de faire émerger l'unicité. D'accord, moi, je veux bien. La manière dont tu le fais émerger est une manière qui est foncièrement non locale.
Non. Mais Roger, je pense que ça vient essentiellement du fait que tu veux absolument tenir une vision statistique de la mécanique quantique, qui est une vision parfaitement respectable, mais qui n'est pas la vision habituelle.
J'en comprends pas d'autres, mais j'essaye de comprendre celle-là. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre celle-là.
Mais la présentation habituelle, celle qui est faite dans l'article originel, donc tu considères que c'est de la bêtise.
Quel article ?
Le PR.
Oui, bon, ben je m'en fiche.
C'est quand même comme ça qu'on discute habituellement par notre PR.
On discute pas parce qu'on a derrière la tête qu'on a fait un tas d'expériences et qu'on a choisi une. Parmi le tas d'expériences, on a choisi une dont on sait que le résultat à gauche est up. Bon, alors on a choisi une, on a regardé le résultat, on a vu que c'était up, et à ce moment-là, on se dit que parmi tous les résultats qu'on peut avoir de l'autre côté, ben, ça sera forcément de là.
Bon, ben prends ça, simplement ça. Prends ça. Si tu prends, admettons même que tu fasses 1000 expériences et que tu sélectionnes et que tu vois que chaque fois que tu as obtenu up, tu as eu donne de l'autre côté plus tard. Eh bien, dans ces 1000 expériences dont tu sélectionnes 500 avec up, prends-en une.
J'en prends une, 500. Mais je choisis.
Eh bien, qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas dire, lorsque la mesure a été faite d'un côté,
je vais pas dire que c'est la mesure. Je vais pas dire que c'est la mesure qui a fait ça. Je vais certainement pas dire que c'est le résultat de l'appareil. Je ne dirais certainement pas ça.
Tu diras quoi ?
Je dirais, c'est comme ça, c'est le président formaliste qui dit ça.
Non, mais tu vas le constater expérimentalement.
Mais oui, je constate expérimentalement, je constate que l'appareil me dit ce résultat, je constate qu'il y a une corrélation entre l'appareil et le spin, total, bon, et puis c'est tout. Mais je n'en tire pas la conclusion que c'est le résultat qui a choisi l'appareil, le résultat.
Que le résultat d'un côté a choisi le résultat d'un autre.
Que c'est l'appareil qui a choisi.
Non, mais on parle pas
c'est pas l'appareil qui a choisi le résultat.
On dit qu'il y a eu un résultat à un moment donné d'un côté, et ce résultat d'un côté a été obtenu à un moment donné, mais quelle que soit la raison pour laquelle il est obtenu, et tu es bien d'accord qu'une fois que ce résultat est obtenu, eh bien, de l'autre côté, et de manière instantanée, puisqu'on peut faire le même
compte,
de l'autre côté, le résultat est sélectionné aussi. Et ça, c'est non local.
Bien sûr que c'est non local. Mais ça,
à partir de là,
ça c'est la non localité
de la classique de la mécanique quantique. À partir de là, du moment que tu admets cela avec ce processus non local, quelle que soit la manière dont le résultat a été obtenu d'un côté, que ce soit en mécanique quantique traditionnelle ou on ne sait pas très bien comment les
oui, non, mais ici c'est
compliqué.
Non, mais c'est pas pareil du tout. C'est pas pareil du tout parce que dans la vision statistique, j'ai eu aucun problème. Tandis que là, c'est pas pareil. Là, il s'agit de dire que de suivre un événement individuel seul. C'est ça le but, hein.
Oui.
Et c'est ça la grande force de ce qu'il essaye de faire.
Oui.
Bon, alors, pour faire émerger cette unicité du résultat, sort de la stochasticité du processus, des termes que tu rajoutes pour modifier la mécanique quantique, pour la rendre capable de prédire des événements individuels. Bon, alors cette stochasticité que tu as rajoutée pour prévenir dire des événements individuels, c'est celle-là qui agit dans l'espace d'inverte, des projecteurs, ce que tu veux, mais qui a comme effet d'agir simultanément sur les mesures ici et là. Pour le processus individuel. C'est comme ça, il faut admettre ça. D'accord ? Bon, ça me gêne pas vraiment d'admettre, mais il faut bien se rendre compte qu'on l'admet.
Un compromis vous proposez, qui serait, là je vais distinguer l'expérience où d'abord on fait la mesure d'un côté et plus tard de l'autre côté. Donc là, j'ai pas envie
Là, tu n'aurais pas de problème.
J'ai pas envie de lâcher une.
Là, tu n'aurais pas de problème.
Je vais te dire
mais c'est si tu le fais en même temps.
Laisse-moi juste terminer, sinon je vais perdre mon fils. J'ai bien envie de dire que la projection qui agit avec le premier appareil agit de façon parfaitement locale avec un projecteur local.
Mais
c'est l'intrication qui
projette automatiquement vers l'autre.
Maintenant, toi, j'ai l'impression que tu discutes un autre cas qui est simultanément.
Non, je discute le cas où il y a simultanément.
Voilà. Et à ce moment-là, là, je suis prêt à lâcher du lest.
Là, c'est bizarre.
C'est effectivement le processus stochastique qui va s'arranger pour modifier avec une loi de probabilité qui est l'ensemble des vecteurs d'état. Rappelez-vous, il y avait ces lois de probabilité qui venaient les valeurs
posées.
Et ça va être l'ensemble des vecteurs d'état qui vont intervenir. Donc les processus stochastiques vont être affectés par ce qui se passe du côté. Les deux mesures sont simultanées.
C'est tout à fait d'accord. Non, mais c'est les mesures simultanées qui me gênent.
Donc, je crois qu'on avait tous les deux raison, c'est vraiment le tout.
Non, mais c'est la mesure simultanée qui me gêne.
D'accord, ok.
C'est de ça que je parle
depuis le début. J'ai compris que tu parlais que de ça.
C'est de ça que je parle depuis le début. C'est
exactement
ça que je parle. Et alors, une mesure simultanée avec deux appareils, bah, les projecteurs que tu es obligé de mettre sont un truc non local. Les appareils ne sont pas. Ces deux appareils ne peuvent pas
être considérés. Si je fais
ils ne peuvent pas être considérés comme indépendants. Tandis que si c'est l'un d'abord, puis l'autre, à ce moment-là, le côté stochastique que tu as rajouté de l'un n'interfère absolument pas sur le côté stochastique que tu mets sur l'autre. Et donc, tu as bien sûr ça, puis ensuite, plus tard, tu as ça. Mais quand c'est en même temps.
Mais quand c'est en même temps, si je fais une théorie favorite de Gabel ABN, je vais bien être forcé de prendre un appareil de mesure qui est fait de l'ensemble des deux choses-là. pour le traiter.
Oui. Hein, oui, mais
avec tous tes projecteurs en
boîte, etc. Oui,
ça va se faire sur l'ensemble des deux. Donc,
oui. Oui, mais ça
donc là, ça ne te choque pas. Puisque c'est
non, mais là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème parce que ce n'est pas la stochasticité. C'est pas la stochasticité de l'appareil qui produit le résultat, l'unicité du résultat. Tandis que là, c'est la stochasticité du résultat qui va produire le résultat.
Bon.
Et la stochasticité des deux parties de l'appareil doit forcément être corrélée pour que ça marche.
Bon, je vous propose de. Est-ce que je fais un exercice transparent là ou pas?
Ah, oui, c'est bah, c'est extraordinaire, ça t'as fait exprès là.
D'accord. Bon, donc je ne parlerai pas la toute dernière partie, c'est pas grave. Donc on a une dynamique qui mathématiquement supprime ces fameux QS, MDS. La projection se fait dans l'espace MD, je suis habitué, je l'ai dit plusieurs fois, part dans l'autre espace, dans celui des. Ça brise, je sais que je suis encore Roger beaucoup. Ça brise la symétrie habituelle entre une fonction de transmission de
foyer. Ça ne me gêne pas.
Ah, bon, d'accord.
Donc, j'aime pas, mais.
Mais
ça me droit.
Bon, on a une dynamique unifiée du vecteur d'état. On n'a plus besoin de parler de mesures, d'opérateurs, d'agents, de shift-slip, etc. Le système de contexte avec Camille et Philippe, ou même d'informations. Les choses évoluent tranquillement dans leur coin, indépendamment de toute mesure.
Mais quand même, le système est complexe, il faut qu'il le sache quand même, puisque la dynamique qui provoque la réduction, c'est une dynamique d'appareil. Donc si c'est l'appareil qui provoque.
Non, il n'y a pas d'appareil de mesure, c'est une notion que dans ce point de vue-là, on considère comme obsolète et dépassée. Il y a des systèmes qui ont une particule.
Oui, c'est ça.
Et les appareils de mesure, généralement, c'est des systèmes qui ont beaucoup parlé.
Mais il faut bien que la particule se trouve dans un contexte déterminé, celui de cet ensemble de n particules, pour avoir une propriété bien déterminée. Mais ça fait se projeter.
Oui, oui,
d'accord.
Oui, bien.
Le contexte n'est pas absent.
Donc une particule tout seul, elle continue à être dans un temps indéfini.
Oui, mais c'est je sais plus ce qu'il y a à la fin, c'est la fin.
Oui,
ça, c'est la fin. C'est une synchronisation parfaite.
Oui.
J'ai plus de batterie. Mais je crois qu'on avait un gros tout dit tout comme on vient de laisser ça.
Merci beaucoup Franck.
Merci.
Est-ce que tu as mis un petit peu ensemble De Broglie-Baume et GRW. Dans De Broglie-Baume, tu as cette dissymétrie forte qui est ta position, je vois le sens. Là, est-ce que. Il y a des variantes de GRW dans lesquelles tu n'as pas besoin d'espace, de mettre en avant l'espace comme.
Tu veux dire de faire jouer un rôle spécial à la position, c'est ça?
Oui, à faire jouer un rôle spécial à la position. Tes projecteurs que tu introduis, au lieu de mettre des projecteurs dans l'espace, mettre d'autres projecteurs aléatoires un peu partout dans l'espace
linéaire. Ça, je ne sais pas, je sais que ça existe.
Ça n'a pas été fait, ça.
Tu sais, il y a beaucoup d'articles.
Oui, je sais, c'est pour ça que moi, je ne les connais pas du tout. Et toi, tu les connais.
Ce qui est d'amusant, d'intéressant, une chose que je voulais dire, c'est le point de vue de ce que les gens appellent la flash ontologie. C'est de considérer que. Ça, c'est dommage, c'est trois parents qui n'ont pas pu discuter, qui est comment ces théories peuvent être interprétées. Et en fait, assez curieusement, il y a pas mal d'interprétations possibles qui sont toutes contradictoires. Il y en a certaines qui considèrent que la réalité physique ultime, c'est le vecteur d'état. Hein, c'est possible avec ce genre de théorie. Alors, ça fait une réalité qui se propage dans l'espace de configuration, avec puissance 23 dimensions. Hein, ça fait un peu tourner la tête quand même. Donc c'est une possibilité. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas ça, que le vecteur d'état, c'est un outil de calcul. Et ce qui compte vraiment, c'est la densité de particules que le vecteur d'état prévoit dans chacun des espaces. Donc on revient à l'espace ordinaire, et on calcule les évolutions de densité de particules. Et puis il y a des gens qui prennent un point de vue plus radical, ça je trouve ça assez amusant, c'est ce que les gens appellent la flash ontologie. Ils disent que la réalité physique, c'est rien de tout ça. Ce sont les événements flash de projection. Et donc, c'est ça la réalité physique, et c'est elle qui se propage dans les cônes de lumière, etc. Et il y a des gens qui construisent des théories gravitationnelles en disant que l'attraction gravitationnelle est en fait créée par les flashs.
C'est la réduction qui crée la gravitation, et donc la gravitation.
Exactement, c'est ce que tu viens de dire.
Ouais. Voilà. Ouais. Oui. C'est un peu. bientôt prendre conscience de regarder, c'est à peu près le même débat que tu sais sur la conscience qui réduit le paquet d'ondes, ou est-ce que c'est la réduction du paquet d'ondes qui produit la conscience?
Absolument.
C'est avec Gustave Penrose, extrêmement. D'ailleurs, Penrose lit très bien les deux, hein, puisque à la fois la théorie de la réduction spontanée et l'idée de la création de la conscience par la réduction.
C'est sûr que c'est très tentant d'imaginer que cette réduction qu'on voit mais qu'on ne sait pas expliquer, c'est la même chose que la gravité, qu'on ne sait pas mettre en pratique. L'idée en abstrait est tendante.
Oui, on peut tout mettre ce qu'on
ne
comprend pas dans
le sac,
mais
surtout quand on est complètement chose, on le dit tout ensemble.
Donc, ce que je ne vous ai pas raconté, c'est le troisième modèle dont je voulais parler. C'est un modèle qui prévoit en gros que les objets ont plus de cohésion que pour les théories standards. Parce qu'à cause de cette réduction constante qui se propage. Et ça ressemble à la mathématique. Quand tu trouves dans tes équations quelque chose qui ressemble à la phénoménie.
Ah, oui. C'est pas ça la piste qu'a suivie Françoise Combes. Elle nous avait indiqué une piste, on lui a demandé d'intervenir, elle a dit qu'elle n'était pas spécialiste, mais comment il s'appelle
Verlinet.
Voilà, exactement, ça n'a rien à voir avec ça.
Non.
Non, c'est la seule chose.
Verlinet, c'est le théorie des champs, mon copain élaboré. Qu'est-ce que je ne peux pas lui faire?
Merci Franck.
Bon, en fait, moi je suis content, je n'avais jamais compris ce que c'était, j'ai compris du tout, donc là, c'était mieux pour savoir ce que c'est, je sais à peu près ce que c'est. Merci.
Et je trouve que le message principal, c'est que c'est bien que cette théorie existe, parce que les gens qui vous disent, on est forcé, la physique quantique moderne montre que la notion de réalité est comme ci et comme ça, bah, le fait qu'il y ait des théories qui existent et qui contredisent ces explanations, c'est intéressant quand même. Beaucoup de choses qu'on dit à Heisenberg et Bohr, à l'époque où ils étaient, elle avait été abotournée par les grandes découvertes qu'ils faisaient, sont amusés, en fait.
En fait, la mécanique quantique nous laisse beaucoup plus perplexe qu'on le pensait.
Oui.
Avec une indétermination.
Voilà, exactement. Et puis là aussi, vous le montrez, c'est un livre que je suis entendu à Maratin d'un physicien qui s'appelle David Kaiser, qui est un gars du MIT, qui a fait un exposé absolument remarquable.
C'est physique, hein?
Oui, sur les tests Bell, sur les tests où on cherche à éliminer le test du free will. Hein. Ah oui. On utilise des signaux qui viennent des galaxies lointaines pour décider. C'est parce qu'il avait écrit un livre qui.
Mais celui-là est rigolo, vous lui savez.
C'est un curieux mélange. Historiquement, c'est assez bien documenté. Il y a eu un énorme mouvement aux États-Unis que je ne savais pas pour lier le terrain de Bell à la télécommunication.
Oui, par un pétra.
Oui, il y en a par un pétra.
Oui.
Bah, il y a des choses paranormales.
Oui, bien sûr. Costa de Bogart n'était pas isolé, en fait. Il y avait tout un groupe important qui.
La télépathie. Moi, j'en ai connu des gens en Allemagne qui télépathie et la qualité. Ouais. Et bon, et le résultat était négatif. Ils me l'ont dit, ils ont été très honnêtes.
Donc ils ont conclu négativement. Donc ça serait bien quand même que ça soit diffusé ces travaux-là, parce que ça évite
oui, les gens continuent négatifs. Oui.
Ben, mais ça serait bien.
Donc, ça explique assez bien. Il n'y a pas beaucoup de. Il y a deux, trois labos qui ont publié des résultats négatifs, dont les labos militaires américains, d'ailleurs, qui essayaient de transmettre leurs ordres aux sous-marins émergés.
Oui, exactement. Ça, c'était ça.
Le travail dont je vous parle, c'est il y a 4-5 ans.
Ah ouais.
4-5 ans, il y avait un groupe allemand très sérieux, très bien. Hein, vraiment, des gens autour. Atman Sparrer était dedans.
Il était dedans.
Il y a Thomas Fink, etc. Et puis, il y a un jeune postdoc qui s'appelle Wilfried. Et il a montré qu'il y avait un résultat strictement négatif sur le plan statistique. Alors, je lui ai dit, alors maintenant, tu vas renoncer à ça. Il dit non, je pense qu'il y a des effets individuels, même s'il n'y a pas d'effet statistique. Voilà.
C'est un des stratagèmes auto-illuminateurs de la parapsychologie.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, on a beau prouver que ça ne marche pas, D'abord, c'est le fait de monter une expérience qui annihile l'effet lui-même, donc par définition, on ne pourra rien prouver. Et puis ensuite, c'est de dire qu'individuellement, ça se passe différemment de ce qu'on a constaté. Voilà. Comme ça, on est tranquille, on peut dire ce qu'on veut.
Et c'est plus... Comme il n'y a pas de preuve,
donc c'est fini. C'est commode.
Alors on peut mettre là-dedans l'homéopathie.
On met tout. On met tout.
La fusion froide.
L'homéopathie, elle a au moins, elle a quand même un effet placebo.
C'est un effet placebo.
On pourrait dire que c'est une méthode de renforcement de l'effet placebo. Mais en tant que tel, moi, je ne le trouve pas totalement aberrant.
Non, la question, c'est de savoir si quand tu sais que c'est un effet placebo, est-ce que ça marche quand même ? Parce que tous les gens qui sont informés du fait que ça n'est qu'un effet placebo, est-ce que du coup, ça détruit l'effet ou pas ?
Il y a des effets. Tu sais, bon, les psychanalystes connaissent ça, il y a des effets inconscients.
Oui, même si tu crois
que tu ne crois pas au niveau conscient, tu peux y croire un peu au niveau
conscient.
Et pour revenir aux mesures de télépathie, même le grand Chimouli a fait des mesures là-dessus. Je vous rappelle, il me l'avait expliqué à Ericsson. Chimouli a fait qui n'est pas n'importe qui. Il a fait comme
des. Et il utilisait quoi ?
C'était intéressant, qui faisait des manips de son labo. Et il y avait un malheureux doctorant qui était en train d'essayer de deviner les cartes que tirait un gars dans le labo d'à côté. Et Chimoli disait, mais ce pauvre gars vient me prendre, il dit, mais qu'est-ce que je cherche ? Qu'est-ce que je cherche ? C'est quoi ma thèse ? Le pauvre, il devait essayer de deviner les cartes.
Mettre un doctorant là-dessus, c'est un peu...
C'était dur, hein.
Chimoni a fait ça.
Bah oui, c'est la bonne attitude.
Le faire pour soi, ça va bien, mais le faire pour quelqu'un d'autre, ça c'est
quand même. J'espère qu'il a donné un deuxième sujet à l'étudier ensuite.
Je suis obligé de finir.
Oui.
La prochaine séance est normalement en décembre, mais du coup j'attends une date pour la salle.
Ça c'est sur quoi ?
Ça sera sur la philosophie de la physique d'Eddington.
Arthur Eddington.
Ah, c'est bien. Vous avez une